C'est l'heure de parler sport avec notre ami Jérémy Filosa. Salut Jérémy.
Salut.
Match revanche canadien Sens ce soir, mais cette fois c'est à Ottawa.
Ouais, exactement. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Puis moi, mon pif me dit que ça risque d'être un match un peu miroir de ce qu'on a vu mardi, à l'avantage probablement cette fois-ci des Sénateurs. Je pense que les deux équipes, c'est des équipes qui sont capables du meilleur comme du pire. Bien, les Sénateurs ont probablement montré un de leurs pires visages dans le match de mardi, malheureusement, là, surtout défensivement. Ça a été difficile, notamment pour Thomas Chabot, qui va sûrement vouloir se racheter dans ce match-là. Et du côté du Canadien, c'est loin d'être parfait défensivement aussi. Ça a été beaucoup mieux quand même, il faut le mentionner, dans le match de mardi. Mais ça fait un bon petit bout de temps que le Canadien n'a pas joué deux bons matchs consécutifs. On va voir s'ils sont capables de le faire ce soir, mais un peu comme lors des programmes doubles au baseball, souvent quand tu as deux équipes qui jouent un contre l'autre dans deux matchs consécutifs, souvent ben, on divise les honneurs. Hein. L'équipe qui a perdu le premier match veut se racheter.
Et d'autant plus, Jérémy, que les Sénateurs ont un bien meilleur dossier à domicile qu'à l'étranger.
Oui, exactement. Puis c'est le cas de la majorité des équipes de la Ligue nationale. C'est toujours plus difficile d'aller jouer sur la route. Mais ces matchs-là, ça me fait un peu penser, puis je recule loin, loin en arrière, où, à l'époque où il y avait beaucoup moins d'équipes, mais pour mousser les rivalités, des fois, on jouait même des séquences de trois matchs consécutifs l'un contre l'autre, surtout à l'aube des séries éliminatoires. Mais bon, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est moins propice ou quoi que ce soit, mais même si les Sénateurs sont dans la même division que les Canadiens et se battent pour une place en série avec eux, on ne sent pas nécessairement...
Écoute, Jérémy, je me souviens, il y a plusieurs années, là,
oui.
Quand l'exemple, les Sénateurs n'existaient même pas, mais les Canadiens affrontaient dans chaque saison 8 fois Boston, 8 fois Québec,
oui.
8 fois, et ça crée une rivalité. Absolument. On la ressent plus, cette rivalité-là.
Non, et la raison est fort simple, c'est parce que, tu sais, tu avais une époque où les débordements arrivaient fréquemment,
oui.
Et puis c'était pas seulement je mets la rondelle dans le filet, mais il y avait aussi une grosse question d'ego. Il y a des joueurs qui se détestaient, qui avaient laissé tomber les gants dans un autre match plus tôt, puis là, ben, c'était le combat revanche et tout ça. Aujourd'hui, les gars, c'est des PME, c'est des business. Mmh. Honnêtement, là, ils ont vraiment plus grand-chose contre les joueurs spécifiquement d'une équipe adverse, à moins vraiment qu'il y ait un coup salaud qui soit asséné ou quoi que ce soit. Mais on va perdre contre un rival direct. On est déçu, oui, mais on passe à d'autres choses parce qu'il y a un autre match le soir suivant ou deux matchs deux soirs plus tard, donc on n'a pas vraiment le temps de s'apitoyer là-dessus. Et il y a moins de combats, il y a moins de coups salauds, il y a moins, ça joue moins physique. Donc, ça fait en sorte que t'as moins t'as moins de tendance à détester tes adversaires.
Ben, pour ce soir, parce que Paul Byron a joué Max Domi, Jonathan Drouin mardi, est-ce que tu t'attends à ce que ces trois-là soient réunis encore ce soir?
Je pense que oui. Écoutez, moi, je serais surpris qu'il y ait des changements. Vous connaissez l'adage, on ne fait pas de changement à une formation gagnante. Et, selon ce qu'on a vu à l'entraînement hier, puis bon, c'est pas confirmé, mais ça risque d'être ça. Ce sera encore, malheureusement, un trio de Québécois qui sera laissé de côté pour le Canadien là, ce soir en Ouellet, Hudon et Deslauriers, malheureusement. Mais bon, je comprends Claude Julien, ça s'est tellement bien passé mardi qu'il n'a pas le goût de rien changer dans sa recette. Là.
OK, bien hâte de voir le résultat. Parlons de l'impact des changements au niveau de la structure.
Oui, bien écoutez, je me souviens le 7 mai 2010. Ça, c'est quand l'Impact a annoncé qu'il faisait le saut officiellement en MLS 2 ans plus tard. Et là, j'avais posé la question, bon, qui seront les dépisteurs de l'équipe? Et là, on m'a regardé un peu bizarre en lui, on n'avait pas pensé à ça, ou quelque chose du genre. Ça a pris 8 ans avant que l'Impact se dote d'un département du dépistage. Je vais vous expliquer vite comment ça se passait avant. Là. L'entraîneur cherchait un joueur, par exemple, je ne sais pas moi, un milieu de terrain récupérateur, puis là, le directeur technique disait, OK, parfait, on a à peu près un demi-million à investir là-dedans. Puis là, on appelait des gens de relayeurs qui, eux, contactaient des agents, puis c'est comme ça qu'on cherchait des joueurs. Les agents envoient des vidéos YouTube, des meilleurs moments, bien sûr, de leurs joueurs, puis disent « Oui, mon joueur, il serait capable de jouer avec vous autres, puis il serait prêt à venir pour ce montant-là ». Ça n'a pas vraiment de sens, tu sais, dans une ligue professionnelle. Et là, finalement, on nous a annoncé aujourd'hui vraiment un système, une pyramide avec 19 dépisteurs qui vont travailler et pour l'Impact et pour l'autre équipe de Joey Saputo, le FC Bologne, en Italie, avec notamment des chefs de zone comme Nick DeSantis, qui a longtemps été avec l'Impact. Il devient le chef de zone du dépistage de l'Amérique du Sud et tout cela. Donc, c'est une excellente nouvelle. Et on a aussi donné la chance à un Québécois, Patrick Leduc,
un ancien joueur chez vous de l'Impact.
Exactement. un défenseur qui, encore dans les médias, dans les dernières années, faisait un excellent travail pour représenter le soccer au Québec. Et donc, lui va s'occuper notamment de l'Académie de l'Impact de Montréal et de faire le pont entre la première équipe et les jeunes de l'équipe.
Un petit mot en terminant, Jérémy. Une nouvelle entente entre Cogeco et les Alouettes de Montréal.
Ouais, ben une excellente nouvelle. Encore pour 3 ans, les Alouettes de Montréal pourront être entendues sur nos ondes. Bien sûr, donc pour ceux qui ont l'habitude de le faire, écouter les matchs de football sur nos ondes qui continuent d'enregistrer quand même de très bonnes cotes d'écoute, là, soit dit en passant. Eh bien, ça a été confirmé ce matin. Là, les Alouettes et Cogeco ont annoncé d'un commun accord, oui, cette entente de 3 ans pour continuer de radiodiffuser les matchs des Alouettes de Montréal. Et nous en sommes bien sûr très fiers.
Et oui, d'autant plus que nous, 104.7, on est la seule station à diffuser les matchs de 2 équipes de la Ligue canadienne de football, c'est-à-dire le Rouge et Noir et les Alouettes, grâce à la permission du Rouge et Noir de diffuser aussi les Alouettes.
Ça, c'est une excellente nouvelle. Puis, sais-tu quoi, tout ce que j'entends sur le professionnalisme et la façon de travailler du Rouge et Noir, aussi avec sa communauté francophone, vraiment, je leur lève mon chapeau parce qu'ils ont compris comment ça marche, la business. Ouais. Tu sais, c'est pas une ligue où il y a 30 équipes. Il y en a 9 seulement. Donc, si les gens s'intéressent aux Alouettes, bien forcément, ils s'intéressent à la division Est de la Ligue canadienne de football. Forcément, ils auront aussi un intérêt pour les 3 matchs où les Alouettes vont jouer contre le Rouge et Or. Et s'ils s'intéressent à ces 3 matchs-là, bien, ils vont peut-être avoir de l'intérêt pour se déplacer et aller voir des matchs au Rouge et Or.
Et Rouge et Noir.
Rouge et Noir, pardon.
Je ne sais pas comment tu fais pour mélanger. On est les meilleurs.
Oui, non, je le sais.
Écoute,
vous êtes en effet très bons, mais 2 clubs de football à distance équivalente de Montréal ou à peu près.
Il y a juste un petit mot qui change en plus à la fin. Jérémy, passe une belle soirée, bon match.
Salut!
Salut!
Bye!